L'œuf et la poule, Olivier Horry. L'œuf et la poule, la conversation philosophique. Une conversation philosophique en écho à l'atelier de philosophie hebdomadaire que j'ai le plaisir de mener à Aubenas, une conversation philosophique en compagnie d'Odile Autré, qui est une des passagères de cet atelier philo. Aujourd'hui, un thème, croire et savoir.
Bonjour Olivier.
Bonjour Odile.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des différences des deux mots? Qu'est-ce qui les articule? Comment dans la vie on croit, ou comment dans la vie on sait? Et comment sait-on qu'on sait aussi?
Oui, et je crois d'ailleurs que, et je sais, que c'est une distinction que nous opérons quand nous utilisons ces mots. C'est-à-dire que si je dis que je sais qu'il va être difficile pour moi d'organiser mon futur voyage de l'autre côté de l'Atlantique parce que je n'ai pas une rémunération suffisante pour me payer un tel vol, un hébergement sur place là-bas, etc. Je sais, je dis que je le sais, et je le sais parce que j'ai fait mes comptes, je connais mon budget, etc. Si je dis, toujours employant ces mots, que je crois qu'il va faire beau, que je crois que je peux gagner beaucoup d'argent en jouant avec la Française des Jeux, au loto, etc. Je sais que je crois, enfin on peut espérer. Et donc, croire savoir, nous le distinguons sur deux modes de... Vous parliez d'articulation. On peut les articuler d'abord en degré de certitude. Quand on sait, on a un certain degré de certitude. Quand on croit, on a un degré de certitude moindre. Je crois qu'on peut dire ça en général. Toutefois, dans la vie de tous les jours, cette distinction entre croire et savoir me paraît tout sauf évidente. Je crois que dans la vie de tous les jours, nous avons surtout des représentations, des pensées, des jugements auxquels nous accordons grosso modo la même valeur de vérité. Peut-être simplement parce que nous n'y pensons pas. Nous pensons sans penser que nous pensons, et par conséquent, l'articulation justement entre croire et savoir s'efface. Ce coefficient de certitude que j'accorde à mes différentes représentations, ce coefficient s'efface également. Et ma foi, je me contente de penser et de juger un peu au petit bonheur la chance, et je crois le plus souvent en étant persuadé que je juge bien des choses dont je juge.
Et est-ce qu'on pourrait dire que le savoir est plutôt fondé sur des éléments réels, une possibilité d'évaluation de et de révision de ces éléments, alors que le savoir serait le croire serait plutôt de l'ordre, alors peut-être une partie de la culture propre ou du vécu, de l'expérience qui s'est dispensée ou volontairement ou non d'une révision.
Je crois qu'effectivement, on pourrait avoir du côté du savoir un ensemble de représentations et de jugements sur le réel qui ont en quelque sorte deux critères de vérification propres. Le premier serait une certaine correspondance avec le réel tel qu'on peut l'observer et l'expérimenter. Ça, c'est une définition du savoir qui est directement inspirée d'une définition de la connaissance scientifique. C'est-à-dire que je sais qu'il va faire beau, ou je sais qu'il va pleuvoir parce que se réunissent au-dessus de ma tête un certain nombre d'éléments dont j'ai l'habitude qu'ils se transforment en pluie. Il y a des nuages, il y a rafraîchissement de l'air, le vent se lève, bon, il va pleuvoir, je le sais, et d'ailleurs, ça se passe. Donc il y a effectivement du côté du savoir cette dimension de vérification par l'observation, par l'expérience, j'irais même jusqu'à dire par l'expérimentation. Si à chaque fois que je fais la même chose, une chose identique s'ensuit, on peut dire que je sais quelque chose. Je sais allumer mon ordinateur parce que je sais qu'à chaque fois que j'appuie sur tel interrupteur, progressivement, l'écran va s'allumer, les fonctions de l'ordinateur vont apparaître à l'écran, etc., etc. Je le sais. À l'inverse, la croyance, effectivement, comme vous le soulignez, est un ensemble de représentations constituées par ce que nous pouvons effectivement appeler notre culture personnelle, nos habitudes, des habitudes justement qui ne réclament même plus de vérification. Croire, effectivement, c'est faire confiance. Et faire confiance à soi, à sa propre culture déjà acquise, et sans souci particulier de la vérification.
Dans ce sens-là, après, il va bien se poser la question de la réalité. On peut se retrouver confronté au réel, des fois un petit peu brutalement, parce qu'on a fait confiance soit à sa culture, c'est son expérience, soit à quelque chose d'un peu abstrait. Mais au final, on se retrouve en face alors, je pense que c'est la mort le truc le plus radical comme expérience. Et là, c'est incontournable.
Oui.
Donc, à un moment de sa vie, on peut se retrouver obligé de remettre un petit peu en question tout ça.
Le juge de paix, c'est le réel, effectivement, à un moment donné. Et je crois que vous faites bien de parler de la mort. On pourrait aussi peut-être évoquer la douleur. Le handicap comme des effets de réel incontestables, difficiles à dénier à un moment donné. Et c'est pour ça qu'à juste titre, nous pouvons dire que nous savons que nous sommes mortels. Effectivement, le réel est juge de paix. Et c'est là que je prendrai assez volontiers l'exemple de la marche. Je sais marcher et je prouve que je sais marcher eh bien, en marchant. Et d'une certaine manière, je me livrais. Il semblerait que nous ayons dans nos représentations une sorte de marge d'erreur possible. Ainsi, si je me rends en ville pour faire quelques courses, et que je m'y rends à pied, je sais marcher, et en règle générale, sans trébucher, sans chuter, j'arrive jusqu'au magasin où je fais mes courses, je rentre chez moi, etc. Si je devais faire le même trajet sur une poutre de 10 cm de large, il faudrait que je sache mieux ce que je fais quand je marche. Il faudrait que je pose mes pieds avec beaucoup plus de précaution. Et il faudrait donc d'une certaine manière que je sache mieux ce que c'est que marcher et marcher au risque de tomber. Et si, blague, je devais avancer sur un fil comme un funambule, je m'apercevrais vite qu'une connaissance et un savoir de la marche beaucoup plus sophistiqué seraient nécessaires pour qu'effectivement je marche. Et de fait, nous bénéficions d'une espèce de marge, c'est-à-dire nous pouvons croire savoir sans que le réel ait cet effet de sanction sur nos représentations. Mais nous allons nous interrompre un moment pour entendre un petit peu de musique. Thank you.
L'œuf et la poule, la philosophie racontée par Olivier Horry.
C'était Kenny Burrell, Chitlins, Con, Carn et c'est la conversation philosophique de l'œuf et la poule en écho de l'atelier de philosophie hebdomadaire d'Aubenas, dont Odile Autret, mon interlocutrice, est une passagère.
On a donc parlé du rappel au réel, pas des fois dans des réalités un petit peu brutales. Ça amène aussi la question de la loyauté, de l'adhésion à une culture et du coup un obstacle à la remise en question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, de cette adhésion, de ses conséquences et comment on revérifie, comment on peut se remettre sur du concret?
Oui, incontestablement, nos représentations crédules sont une sorte de zone de confort qui nous est autorisée par la nature et la société. Nous ne sommes pas obligés de savoir toujours exactement les choses telles qu'elles sont. C'est vrai aussi que ces croyances et cette zone de confort, nous la devons, nous la cultivons peut-être en vertu effectivement d'une sorte de loyauté que nous avons à l'égard du groupe auquel nous appartenons, le groupe social et socio-professionnel, familial également. C'est-à-dire que les croyances sont effectivement des représentations, sont des représentations partagées, et qui, on le voit, ne sont pas partagées parce qu'elles correspondent au réel. Elles sont partagées parce qu'elles correspondent effectivement plutôt à des communautés d'intérêt. C'est-à-dire que nos croyances sont plus dictées par ce que nous avons envie de penser que parce que les choses sont bien réellement, il va de soi que c'est notre désir, notre intérêt. Et notre intérêt personnel, mais également notre intérêt de groupe qui est en jeu. Et il y a une forme d'adhésion de groupe dans la plupart des styles de croyances. Ce sont les croyances politiques, ce sont les croyances morales, ce sont les goûts, ce sont également les modes. On ne peut pas penser que quelque chose d'aussi fugitif qu'une mode vestimentaire, mais même à d'autres points de vue du comportement, des modes touristiques, enfin, etc. On ne peut pas croire qu'elle n'ait pour seule raison qu'un intérêt objectif de la chose qui est à la mode. Il va de soi qu'il y a un phénomène effectivement collectif d'adhésion. C'est ce qu'on rencontre finalement fréquemment dans la rumeur. Hein, dans la théorie du complot, la théorie du complot, c'est toujours une histoire simple qui finalement satisfait un désir collectif de réponse à un problème qui se pose collectivement et pour lequel on n'a pas véritablement de solution. Hein, on se raconte des histoires à défaut d'avoir des explications et en lieu et place, évidemment que ces phénomènes de croyance sont en soi assez pernicieux, assez dangereux, puisqu'ils nous éloignent du réel.
Et donc ce sera d'autant plus difficile de s'apercevoir qu'on est dans une croyance, puisque ça met en jeu ce fonctionnement de groupe, ça peut mettre en jeu la place dans le groupe quel qu'il soit. Donc comment on peut finir par... S'il n'y a pas d'événement fatal, comment on peut se reconnecter, je dirais, à la réalité et remettre à l'œuvre une vérification de nos croyances?
Ça me paraît très difficile, d'autant que tout le monde sait bien que nous avons également une grande capacité de déni, même face aux échecs que nous inflige le réel. Il me semble qu'il y a quelques manœuvres un petit peu opératoires. Il y a une chose qui nous permet de sortir un peu de nos représentations crédules, c'est le dialogue sincère en vue de la vérité. C'est-à-dire quand véritablement et sincèrement nous acceptons d'échanger avec un autre qui a un autre point de vue, nous pouvons effectivement commencer à remédier aux effets les plus pervers de la de la crédulité, indépendamment donc d'un échec patent face au réel. Je crois aussi que le souci de la vérité peut se faire jour quand on aperçoit dans une croyance des contradictions. Les croyances, les représentations crédules du réel renferment souvent des contradictions, et c'est le repérage de ces contradictions qui peuvent éventuellement servir de base. Moi, je pensais à un exemple un peu tout bête. Quelqu'un me dit j'ai acheté une voiture, et au lieu de me dire j'ai acheté une voiture, me dit j'ai investi dans une voiture. Alors j'ai envie de dire investissement économiquement, financièrement, ça a un sens assez précis, en particulier dans un système capitaliste. Un investissement, c'est une somme d'argent placée de telle manière à ce qu'elle rapporte. C'est rarement le cas d'une voiture dont nous faisons l'achat par commodité. On devrait donc dire non pas j'ai investi dans une voiture, mais je me suis acheté et j'ai dépensé pour une voiture. Cette espèce de, il y a là dans l'usage du vocabulaire une contradiction. J'utilise pas le terme financier au sens correct, et ça peut d'une certaine manière me mettre la puce à l'oreille. Voilà, on peut peut-être se poser un petit peu en entendant de nouveau un peu de musique. Bésame mucho, c'était Dave Brubeck, vous aurez peut-être reconnu au piano. La conversation philosophique de l'œuf et la poule en écho de l'atelier de philosophie hebdomadaire d'Aubenas, dont Odile Autret, mon interlocutrice, est une passagère.
Dans l'exemple cité à propos de l'investissement dans une voiture au lieu de l'achat d'une voiture, on peut peut-être penser un petit peu à une espèce de valorisation de soi. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve aussi dans les croyances? Et est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce qu'on choisit de croire? Est-ce que c'est une décision? Et est-ce que c'est pas aussi un petit peu quelque chose qui découle de la personnalité?
Ouais, je crois qu'effectivement, dans la croyance, on a visiblement cette marge de manœuvre que nous permet la croyance face au réel. Cette installation que permet notre crédulité à l'intérieur d'un groupe qui croit les mêmes choses, enfin, etc. Tout ça renvoie effectivement à quelque chose qui nous paraît assez spontané, qui nous paraît ressortir d'une manière d'être soi le plus confortable possible, avec le moins d'obstacles et de souffrances possible. Bien sûr que on a l'impression qu'avec la crédulité, qu'avec les croyances, on assiste à une forme de persistance de soi dans son être, avec un minimum de questions dérangeantes à se poser. Et effectivement, parler à ce niveau-là de choix paraît quand même très exagéré. Je crois qu'on ne choisit pas tellement plus ses croyances qu'on ne choisit finalement de vivre, de manger, etc. Oh, ça fait partie un petit peu de notre mouvement spontané, immédiat. Hein. Nous croyons tout à fait spontanément que les choses sont bien telles que nous pensons qu'elles sont. Et du coup, et ça peut paraître paradoxal, je ne sais pas si ça l'est, c'est au contraire l'exercice de savoir qui paraîtrait un petit peu à contre-courant, qui paraîtrait comme quelque chose presque de contre-naturel. C'est-à-dire que autant croire nous paraît relever du glissement, hein, du laisser-aller, autant savoir nous paraît relever d'un mouvement de conversion, comme si on devait remonter une sorte de courant, le courant étant déjà nous-mêmes. Hein, et effectivement, on voit mal la croyance cesser sans un moment dans l'existence. C'est un petit peu comme ça que Descartes commence les méditations métaphysiques, hein. Un moment dans l'existence où je me dis mais finalement, qu'est-ce que je crois vaut ? Est-ce que franchement je crois juste ? Ça nécessite donc ce basculement de la croyance au savoir. Ça nécessite donc quelque chose qui ressemble à une conversion et à un passage à la réflexion, hein, c'est-à-dire à une espèce de second degré. Et je crois que nous l'avions un peu évoqué hors antenne en parlant déjà de ces questions ensemble, aussi bien à l'atelier. Se mettre à savoir, ça demande du temps. Ça demande déjà de s'arrêter et puis de dialoguer, on l'a vu, de repérer les contradictions, de s'assurer auprès des réalités qui nous entourent, sensibles, que je suis bien dans le savoir et non pas dans la croyance confortable. Et tout ça demande, et ce n'est pas accessoire, tout ça demande effectivement, réellement, une prise de temps.
Et donc ça suppose de douter. Il faut douter pour commencer. En fait, il faut douter pour commencer à chercher à comprendre.
Je crois que c'est ça. Et j'aime bien cette espèce de caillou dans la chaussure que m'a mis Descartes. Il y a des années, ça remonte au tout début de mes études, quand de manière un peu baroque, il se demande mais est-ce que nous ne sommes pas en train de rêver ? Et voilà. Et c'est peut-être cette expérience un petit peu baroque qui, comme si il était nécessaire à un moment donné de se pincer et d'aller jusqu'à cette radicalité. Est-ce que ma vie est un songe et est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle n'en est pas un et que je vis bien une vie réelle. Voilà, c'est sur ces quelques réflexions sur le temps qu'il faut prendre et sur les rêves qui nous habitent que nous allons nous quitter. Nous avons entendu Chitlins con carne de Kenny Burrell. C'est l'album Midnight Blue 1999. Nous avons entendu également Besame Mucho de Dave Brubeck, c'est l'album On Time 1967. Vous aurez peut-être aussi reconnu Paul Desmond au sax. Naturellement, il me reste à remercier Landy Unger, évidemment à la musique, l'ange musical de l'œuf et la poule, de remercier Odile Autré, ma si sympathique interlocutrice, et puis Vincent Guigon qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Yeah.